Vous êtes sur RTL.
RTL Midi avec Agnès Bonfillon.
Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans RTL Midi. Ravi de vous retrouver pour une heure d'infos, de débats, mais aussi d'opinions. Vous le savez, à partir de 13h, comme tous les jours, vous avez la parole au 32-10. Sachant qu'aujourd'hui, nous allons consacrer une grande partie du journal à la sécheresse. Première réunion en ce moment même de la cellule interministérielle de crise, activée ce matin par Elisabeth Borne. Nous sommes en train de battre tous les records avec des conséquences dramatiques pour certaines professions, puisqu'aucune région n'est épargnée ou presque. Nous allons faire un tour de France. Par exemple, nous serons avec Luc dans le Gard, un éleveur de brebis obligé de se séparer de ses bêtes. Une cellule de crise, qu'est-ce que cela veut dire ? On va tout vous expliquer dans un instant. Nous parlerons également du retour chez lui de Patrick Balkany ce matin. Il est sorti de prison, vous l'entendrez. Et puis, événement du jour pour les amoureux de foot. Reprise du championnat de Ligue 1 ce soir avec Lyon-Ajaccio. L'occasion de nous pencher sur cette saison qui s'annonce déjà très rude. Bonjour Valérie Quintin.
Bonjour Agnès.
On parle évidemment météo, on respire mieux. Enfin, pas partout.
Non, pas partout. Alors sur la moitié nord, oui, parce qu'on a un petit vent de nord-nord-est qui permet de rafraîchir un petit peu l'atmosphère. Attention, on a encore des vigilances quand même pour la canicule dans l'Ain, le Gard, le Rhône, les Savoies, le Vaucluse. Et puis une vigilance aux orages qui concerne la Loire et la Haute-Loire. Pour autant, ce soir, on attend de très gros orages dans le Gard, dans l'Hérault ou encore dans le Massif central. Un temps ensoleillé de part et d'autre. 22 degrés à Rouen, ça va effectivement beaucoup mieux. 26 à Paris, 27 au Mans, 28 degrés à Bourges et à Tarbes cet après-midi, 29 pour Clermont-Ferrand, 32 degrés à Besançon et Bordeaux, encore 33 à Ajaccio et 34 degrés à Marseille.
En cette période de sécheresse, au 32-10, vous nous direz à partir de 13h ce que vous faites concrètement pour économiser l'eau. Astuces et autres trucs, vos conseils sont les bienvenus. Et la question du jour sur RTL.fr justement, faut-il interdire l'arrosage des terrains de golf ? Vous avez répondu oui à 73%, non à 18%.
RTL Midi.
C'est donc pour faire face à la sécheresse actuelle qu'Elisabeth Borne a activé ce matin une cellule interministérielle de crise. La situation est historique. Ce sont les mots de la Première ministre. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour.
Historique, ça y est, on est au-delà de l'été 76.
Eh bien, selon Matignon, la France connaît la pire sécheresse jamais enregistrée. Donc oui, on va vers un scénario pire que 76. Alors déjà dans l'Est, les débits des rivières sont inférieurs. C'est un peu mieux dans la moitié sud que 76 au niveau des nappes. Mais dans le Nord-Est, c'est pire. Le Rhin, vous savez, un débit deux fois plus faible que la normale et les bateaux touchent le fond et sont obligés de s'alléger pour naviguer. Et puis, autre raison de s'inquiéter, toute la France est touchée. En 76, le sud l'était un peu moins et nous ne sommes qu'au début du mois d'août.
Il faut s'attendre à des restrictions, j'imagine ?
Alors, des restrictions, oui, qui seront peut-être annoncées tout à l'heure dans le comité interministériel. Des restrictions d'eau supérieure. Si vous voulez savoir dans le département, de ce qui se passe dans votre département, vous avez un site qui est très bien fait, qui s'appelle propluvia.gouv.fr. C'est un peu long ce matin parce que visiblement, il y avait beaucoup de fréquentation, mais là, vous savez exactement à quoi vous êtes soumis.
Alors, ce n'est pas toujours facile de changer ses habitudes. Vous restez avec nous, Virginie Garin. Nous allons rejoindre Nicolas Bobby. Vous vous êtes rendu, Nicolas, dans une station de lavage de voitures à Auré, dans le Morbihan. En résumé, la sécheresse là-bas, ce n'est pas encore la priorité.
Oui, on fait la queue pour accéder au lavage à haute pression. Lance en main, Noël offre un beau cadeau à son auto.
On est revenu de vacances, elle est dans un état pitoyable. Mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lavé. Ça doit faire au moins 2 mois. C'était la dernière limite. Mais on fait attention, bien évidemment, parce qu'on est conscient du manque d'eau. Et c'est très important pour les animaux et pour les pompiers, peut-être.
Une des trois pistes seulement fonctionne sur arrêté préfectoral. Le lavage automatique avec ses douces brosses est à l'arrêt. Jean-Jacques patiente.
Parce qu'il y a du sable dessus et malheureusement, je ne peux pas la nettoyer à la main parce que j'ai peur d'oreiller la peinture. Et je vais mettre juste un petit euro qui dure une minute, juste de quoi la rincer. Et comme on est en vacances, on n'a pas les outils qu'on a à la maison.
Vous ne vous sentez pas, entre guillemets, un peu coupable ?
Non. Tout simplement, non.
Et Wen est là pour son travail.
Alors nous, on fait partie une société de location de voitures, donc on est obligé de venir laver les voitures pour le bien des clients qui viennent louer les voitures. C'est pas trop écologique, mais après on est un peu obligé d'avoir des voitures propres pour respecter la prestation.
Quelques automobilistes pressés ont fait demi-tour avec des voitures toutes sales.
Merci beaucoup Nicolas Bobby dans le Morbihan et nous partons maintenant dans le Nord avec vous Antoine Decarne, bonjour.
Bonjour.
C'est du jamais vu, hein. C'est une première par exemple dans le bassin de l'Isère.
Oui, c'est ça. Le département du Nord n'avait jamais eu un seul territoire classé au plus haut niveau de crise sécheresse. Je me trouve à Herzel, dans les Flandres. On est à 30 km de Dunkerque. Je suis au bord de l'Isère. L'Isère, c'est donc une rivière où depuis toujours l'eau coule en abondance. Mais bon, bah là, écoutez, avec mes baskets, en marchant sur les cailloux, je peux traverser le cours d'eau ou ce qu'il en reste. La police de l'environnement me disait tout à l'heure qu'il manquait 60 cm d'eau. Je devrais normalement avoir de l'eau jusqu'en haut des genoux. Et c'est vraiment pas le cas. D'habitude, dans l'Isère, il y a quelques pêcheurs qui taquinent notamment l'anguille. Et devant moi, je peux vous dire, il n'y a plus aucun poisson. Si la sécheresse continue, le cours de l'eau pourrait même tout simplement s'arrêter par endroits. Il n'y aurait que des flaques de part et d'autre. C'est d'autant plus choquant pour certains habitants que j'ai rencontrés parce que la sécheresse dans le Nord, historiquement, les gens ne se sentaient pas concernés. Car rendez-vous compte, la toute première petite vigilance sécheresse date de 2017 seulement.
Merci beaucoup Antoine Decarne, en direct du bassin de l'Isère avec un Y, n'est-ce pas Virginie Guérin ?
Pas confondre avec l'Isère, un peu plus bas.
Nous partons maintenant, après le Morbihan, le Nord, dans le Gard, où nous retrouvons Luc Incelin, berger de... On va essayer de le retrouver, Luc Incelin, on a un petit souci de liaison. En fait, Luc est obligé de se séparer de ses bêtes. 400 brebis dans son cheptel. Il va être obligé d'en céder 180. Bonjour Luc Incelin, vous êtes à l'antenne. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, je disais que vous êtes donc berger hein, près de Valérargues dans le Gard et vous êtes obligé de vous séparer d'une partie de vos bêtes, notamment via le site Le Bon Coin. Pourquoi avez-vous pris cette décision concrètement ?
Bah, parce qu'aujourd'hui, cette sécheresse, cette situation catastrophique et me coûte 25 000 euros. Voilà, tout simplement.
Mais en quoi la sécheresse coûte cher ?
La sécheresse coûte très très cher aux éleveurs. Il nous faut acheter du foin puisqu'on n'a pas d'eau chez nous depuis le 25 avril. Il est tombé 15 mm d'eau.
Ça veut dire quoi ? Qu'il fait chaud, donc rien ne pousse ? Vos bêtes ne peuvent pas se nourrir comme elles ont l'habitude de le faire ?
Alors, non seulement rien ne pousse, mais les plantes sont en train de mourir. Et le peu d'herbe qu'on avait est tellement sèche que les animaux ne peuvent pas la manger, ils en gaspillent plus de la moitié.
Vous avez donc puisé, j'imagine, dans vos réserves au début de l'été, là ?
Oui, on commence, moi j'ai un élevage de poney Shetland aussi, on puise dans nos réserves, mais il faut savoir qu'on a fait 50% de notre récolte de foin cette année.
Donc vous les vendez sur Le Bon Coin, vos brebis ?
Oui.
C'est plutôt original comme façon de faire ?
C'est pour leur éviter de partir, on va dire, dans le circuit commercial de la viande.
À l'abattoir.
À l'abattoir. Et j'ai quelques éleveurs qui, dans d'autres régions...
Ah, on ne vous entend plus à nouveau, Luc Incelin, dans le Gard. On va essayer de vous retrouver, on vous repère, c'est décidément dommage parce que c'est vraiment très intéressant de voir à quel point les conséquences sont multiples hein, de la sécheresse. Toute la profession est impactée, on l'entend hein, Virginie Guérin, quand on parle de l'agriculture.
Oui, les éleveurs bovins, les éleveurs de moutons, ils parlent de situations effectivement catastrophiques, il n'y a plus d'herbe, on le voit, hein, les champs sont jaunes. Ça fait plus d'un mois qu'ils puisent dans leur réserve de fourrage prévue pour l'hiver prochain. Alors il y a une solidarité, les céréaliers leur donnent de la paille, les restes de moisson qu'ils peuvent mélanger aux rations de foin. Mais comment vont-ils trouver à manger dans les mois qui viennent ? Certains donc vendent leurs bêtes, on l'a entendu. Et puis il y a toutes les répercussions sur la production. La récolte de blé nationale a été à peu près correcte, mais pour le maïs, elle est plus tardive. Alors là, elle sera très mauvaise. Les grains sont à peine formés. Une vache, quand il fait chaud, elle fait moins de lait. 30% de rendement en moins. Les poules font des œufs plus petits. Il va y avoir des dégâts sur l'agriculture. Et puis pour nous, les consommateurs aussi, évidemment, il y avait déjà eu l'impact de la guerre en Ukraine sur les prix. Eh bien, il y aura aussi celui de la sécheresse.
Luc Incelin, juste une dernière question avant de vous quitter. Vous qui êtes dans le Gard, donc éleveur de brebis, obligé de vous séparer de vos bêtes, ça doit être un crève-cœur, j'imagine. C'est très compliqué pour un éleveur de devoir se séparer d'une partie de ses bêtes.
Oui, mais c'est la solution pour que les autres continuent à vivre, on va dire, normalement et tout. Et aujourd'hui, on a de la spéculation chez nous, dans le Gard, sur la paille, qui part dans notre département, sur le foin, et ainsi de suite. Donc les éleveurs bovins aussi du Gard sont en train de se séparer de leurs animaux.
Oui, vous n'êtes pas le seul, c'est ce que nous disait Virginie à l'instant. Concrètement, nous parlions de la cellule interministérielle de crise hein, qui vient d'être mise en place. Est-ce que vous avez quelque chose à demander au gouvernement en particulier ?
Oui, le quoi qu'il en coûte pour les éleveurs. Aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, il y a urgence. C'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 8 mois, parce que d'habitude, sur des crises comme celle-ci, on attend 6 ou 8 mois pour avoir des aides quand on a un petit peu quelque chose. Là, c'est vraiment le quoi. On demande, les éleveurs demandent le quoi qu'il en coûte pour nous aider à franchir ce cap.
Le quoi qu'il en coûte pour les éleveurs. Merci infiniment, Luc Ancelin, d'avoir été avec nous dans RTL Midi. Je rappelle que vous êtes berger, hein, près de Valérargues, dans le Gard. Nous partons désormais, nous poursuivons hein, ce Tour de France pour aller dans les Vosges. Et nous sommes avec le maire de Gérardmer, Stacy Spessmann. Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour.
Alors, on vous a déjà eu hein, sur RTL, mais la situation est tellement inédite. La situation à Gérardmer illustre la période exceptionnelle que nous vivons. Vous êtes obligé de puiser dans le lac pour vous fournir en eau potable.
C'est une situation effectivement exceptionnelle chez nous, avec deux réseaux hein, sur la ville de Gérardmer, une nappe phréatique et un réseau de sources. Aujourd'hui, la nappe phréatique, qui n'a jamais posé de soucis jusqu'à présent, est à un niveau tellement bas qu'on ne peut plus pomper dedans. Et le réseau de sources diminue de jour en jour et on va arriver à l'extrême également sur ce réseau-là. Donc la seule solution pour nous, pour préserver notre réseau, a été de remettre en œuvre ce qu'avaient prévu nos anciens. Ça a été installé en 1972 dans le lac de Gérardmer, donc un captage qui nous permet de pomper l'eau du lac et de la réinjecter dans la station de traitement.
On apprend à l'instant, monsieur le maire, que plus de 100 communes en France sont privées d'eau potable, hein, dans une situation donc inédite. Vous avez déjà eu une coupure de 48 heures à Gérardmer. Les habitants doivent-ils s'attendre à en revivre ?
Alors, on attend effectivement aujourd'hui les dernières analyses qui ont été faites, hein, parce que, étant donné que c'est une nouvelle ressource, on doit prendre toute la sécurité pour nos habitants, évidemment. Donc, ces résultats devraient tomber aujourd'hui. Donc, ça fait déjà 48 heures, effectivement, que 80% de la ville est fournie en eau qui est définie non potable en attendant ces tests. Bon, il suffit de la faire bouillir, hein, 5 minutes pour pouvoir l'ingérer, évidemment. Donc, j'espère que cette situation ne va pas durer et que le traitement que l'on effectue actuellement est efficace.
Dans quel état d'esprit se trouvent les habitants de Gérardmer, monsieur le maire ? Sont-ils angoissés ?
Oh, ils sont surtout très surpris parce que, encore une fois, un secteur chez nous en pleine montagne qui, encore une fois, visuellement est toujours vert autour de nous, donc ils sont particulièrement surpris qu'on puisse en arriver à un niveau à ce point-là sur une ville comme Gérardmer et sur un secteur comme le Massif des Vosges.
Merci beaucoup Stacy Spessmann d'avoir été en direct avec nous dans RTL Midi, une cellule interministérielle de crise donc. Depuis ce matin, plus de 100 communes privées d'eau potable en France. Concrètement, cette cellule, elle va servir à quoi, Virginie Garand ?
Alors, le gouvernement va demander au préfet de faire un état des lieux pour prendre des mesures qui s'imposent. Elles seront décidées au plan local. Il faut savoir qu'il existe toute une panoplie hein, prévue dans le cadre du plan Orsec, mobilisation de la sécurité civile, de l'armée, avec les communes pour approvisionner en eau justement les populations avec des bouteilles, avec des citernes, en connectant des réseaux d'eau de communes qui en ont encore avec d'autres qui en ont moins. On peut aussi installer des mini-centrales pour purifier l'eau, pour dessaler l'eau. Vous voyez, il y a plein de solutions qui sont prévues. Il y a même jusqu'à l'évacuation de certaines populations si on ne peut pas leur apporter de l'eau potable.
Et justement, nous allons voir le maire d'une commune qui a pris hein, des dispositions pour les prochaines vagues de chaleur, les prochains épisodes de sécheresse. Nous sommes avec Patrice Kilici. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes maire de Rogliano en Haute-Corse. Et donc pour éviter de manquer d'eau potable, monsieur le maire, votre commune va se munir d'une unité de désalinisation.
C'est bien ça. C'est ce que l'on met en place elle sera en production vers le 10 septembre.
D'accord. Et vous avez pris cette décision à quel moment ?
Oh là là, vous savez, moi je suis un homme de la terre, je suis dans mon village depuis 70 ans.
Oui.
Et vu les épisodes de moins en moins pluvieuses que subissent la pointe du Cap, nous avons, on s'est tapé, puisque j'ai une commune quand même qui a 650 habitants en hiver, et l'on passe à 5-6 000 en saison estivale, parce qu'on a un port de plaisance, c'est un des troisièmes ports de Corse. J'ai des commerces qui vivent de ça, c'est des jeunes qui sont implantés chez moi, qui veulent venir au village. Pour ça, le seul moyen de rester au village, c'est le tourisme, à travers le tourisme, la plaisance, c'est les gens qui reviennent l'été chez nous, etc. Mmh. Et aujourd'hui, il s'avère qu'en BDD, pas de pluviométrie, pas de pluie en automne, très peu d'ailleurs, pas de pluie au printemps, et nos réserves sont vraiment... on n'a plus d'eau.
Très très bien.
Seulement, j'ai un avantage, c'est que je peux stocker l'eau.
D'accord.
J'ai une réserve de 46 000 mètres cubes. Aujourd'hui, elle est à 15 000. Et là, pour arriver à éviter la crise, c'est l'unité de dessalement.
Et cette unité, elle coûte cher pour une commune ?
C'est-à-dire, alors cette fois-ci, on en fait l'acquisition. Elle coûte autour d'un million d'euros.
Ah oui, quand même, c'est un investissement, mais que vous trouvez inévitable là, en ce moment.
Inévitable. Il n'y en a pas le choix. Peut-être pas la meilleure, mais c'est celle qui va nous permettre de sauver la situation aujourd'hui. Et je pense que j'entends un peu de partout, hein, dans tous les pays, il y a les usines de dessalement. J'ai des reportages en grain en Israël, en Portugal, en Espagne. Moi, j'ai une voisine italienne de Toscane, la Cabraille, qui est à 40 minutes de chez nous. Et eux, depuis 10 ans, ils sont autonomes parce qu'ils ont une usine de dessalement. Ouais. Ils n'ont plus de soucis. C'est vrai qu'il faut respecter aujourd'hui. Je peux dire quand même quelque chose qui est important aujourd'hui, que ce soit l'État, la région, le parc marin. Tous les clignotants sont ouverts pour nous donner les autorisations qui aujourd'hui nous manquaient et qui étaient un peu réticents sur ce point-là.
Merci beaucoup, hein, Monsieur le maire Patrice Quilici, d'avoir été avec nous, maire de Rogliano en Haute-Corse. Virginie Garin.
Oui, vous voyez, il est intéressant ce témoignage parce qu'il va y avoir un débat dans les prochains mois, sans doute, sur à la fois le stockage de l'eau, donc là on peut stocker l'eau, donc peut-être refaire des barrages, des lacs, et puis sur la réutilisation aussi des eaux usées, parce qu'il y a plein d'eau qu'on n'utilise pas, l'eau de nos toilettes, l'eau qui vient de nos maisons, de la vaisselle. Mmh. Réutiliser cette eau, ça va être un vrai débat dans les prochains mois.
Et on vous demande, hein, justement au 3210 si vous avez des trucs à nous donner pour réutiliser l'eau, des trucs tout simples auxquels on ne pense pas toujours. On attend vos témoignages. Je me tourne vers vous, Vincent Derosier du service politique. Bonjour.
Bonjour.
Une cellule interministérielle de crise activée ce matin par Elisabeth Borne. Ce n'est pas un hasard, hein, Vincent, si le gouvernement a choisi cette formule choc et surtout aujourd'hui.
Oui, cette formule choc et ces mots qui ont été parfaitement pesés, crise, grave, historique, drame. On a presque le sentiment d'assister à un conseil de guerre. Et paradoxalement, Matignon explique qu'aucune décision ne sera prise à l'issue. Donc le quoi qu'il en coûte pour les éleveurs, malheureusement, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Parce que l'objectif, là, c'est de faire comprendre aux Français que cette sécheresse est beaucoup plus grave que les autres et donc qu'il faut faire des efforts avec l'eau. Mais, et c'est là que l'exercice se complique, il ne faut pas non plus faire paniquer les Français, confier un proche du Premier ministre, de la Première ministre, et créer l'effet inverse où tout le monde va, par exemple, chercher à stocker de l'eau.
Mais c'est que de la com', Vincent ?
Alors, non, il y a cet aspect opérationnel dont parlait Virginie. Ça permet de mettre les préfets sous pression, de préparer les scénarios, notamment pour réagir plus vite en cas de nouvelles restrictions. Et puis tous les ministères concernés de près ou de loin sont représentés. Transition écologique, transport, santé, économie, compte public et ministère de l'Intérieur, bien sûr. Matignon ne veut surtout pas être accusé de ne pas avoir anticipé la crise. Et un conseiller de conclure, la seule chose qu'on ne sait pas faire, c'est la danse de la pluie.
Merci beaucoup, Vincent.
Vous savez, en 1976, le Premier ministre, c'était Jacques Chirac et il tenait des conseils de guerre pendant la sécheresse. C'était le terme qui était employé à l'époque.
Merci beaucoup. Restez avec nous tous les deux pour réagir dans un instant avec les auditeurs. Nous faisons une pause et dans la suite du journal, évidemment, nous reviendrons sur le début de Ligue 1, le championnat de Ligue 1 qui débute ce soir.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi avec Agnès Bonfillon.
Vous l'avez compris, hein, sur RTL, on revient largement sur la sécheresse et la cellule de crise interministérielle mise en place ce matin. Dans le reste de l'actualité, c'est très aminci, les cheveux beaucoup plus longs que Patrick Balkany est sorti de prison ce matin. L'ancien maire de Levallois-Perret, n'ayant pas respecté son placement sous bracelet électronique, avait été réincarcéré il y a 6 mois. Il a retrouvé son épouse dans leur propriété de Giverny. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il s'est adressé aux journalistes sur place.
Écoutez, je me sens surtout soulagé. La prison, c'est très dur. C'est très difficile. J'étais isolé, seul, j'ai pas croisé un détenu pendant 6 mois. Ça, c'était très dur. C'est un enfer d'être là parce que ça hurle dans tous les sens. C'est très fatigant. On n'arrive pas à dormir parce que jusqu'à 2h du matin, ça hurle, ça tape. Je peux vous dire que pour un homme de mon âge, c'est difficile. Je suis heureux de venir me reposer, de retrouver mon épouse, retrouver mes chiens, de retrouver la maison. Voilà.
La Russie n'est pas fermée à une discussion avec les États-Unis, c'est ce qu'elle fait savoir concernant un échange de prisonniers. Hier, la basketteuse américaine Brittney Griner a été condamnée à 9 ans de prison pour avoir été arrêtée à l'aéroport de Moscou en possession de cannabis. La reprise du championnat de Ligue 1, ça y est, c'est ce soir. Pour le premier match, Lyon reçoit Ajaccio, ce sera à 21h. Bonjour Eric Silvestro.
Bonjour à tous.
Une chose est sûre, cette nouvelle saison va être très intense.
Oui, 38 matchs de Ligue 1, la Coupe de France, des matchs de Coupe d'Europe et surtout la Coupe du Monde au Qatar, tout ça jusqu'au 3 juin. Imaginez un Tour de France avec pratiquement que des étapes de montagne et ça va débuter par un sprint de 3 mois jusqu'au 13 novembre. 15 journées de championnat au programme et un pic de forme à atteindre rapidement en vue du Mondial. Pour les internationaux, il faudra ensuite enchaîner pendant les fêtes avec un Boxing Day à la française, une première les 28 décembre et 1er janvier.
Et pour beaucoup, Eric, cela va être le championnat de la peur.
Oui, car si le calendrier si particulier engendre les mêmes interrogations pour tout le monde, l'épilogue est redouté par une bonne douzaine de clubs. 4 seront en effet relégués en fin de saison pour permettre le passage à 18 clubs en 2023. Allez, un peu de maths pour vous Agnès, 20 au départ, 4 relégués soit
20%
de risque. En effet, vous êtes pas mal, vous êtes rapide, vous êtes plus rapide que le VAR, c'est bien. Vous
pouvez... j'avais pas lu toute la phrase.
Profs de maths, hein. Il cherche des profs de maths à l'éducation nationale, vous pouvez peut-être postuler.
Non, je crois pas, non. Eric Silvestro du service des sports de RTL, on vous retrouve avec toute votre équipe hein, ce soir pour RTL Foot, là aussi c'est reparti, dès 20h. En revanche, est-ce que ça vous dirait d'être moniteur de surf?
Ah, de ski peut-être, mais de surf.
Ah bon, moins. Écoutez, bah, heureusement que Valentin Boissé s'y est collé pour RTL en immersion dans un instant.
RTL Midi. RTL en immersion.
Vous y êtes habitué maintenant, c'est l'un de vos rendez-vous de l'été. Les journalistes de RTL testent un nouveau métier. Direction aujourd'hui Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée. Valentin Boissé, vous vous êtes transformé en moniteur de surf. Bonjour à vous.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Vous avez carrément donné un cours de surf sous la supervision d'une figure locale de la discipline, Loïc Caillé.
Oui, le rendez-vous est donné devant un petit garage. À l'intérieur, des dizaines de surfs sont suspendus au mur. Loïc sera mon collègue moniteur. Il faut que je choisisse ma planche.
Les vagues sont grosses, plus on adapte, on prend des petites planches. Les vagues sont petites, plus on prend des grosses planches. C'est le volume en fait qui fait qu'on flotte ou pas.
Je suis pas très grand. Je prendrais quel type de planche?
Entre 2 mètres 20 et 2 mètres 40.
L'eau est à 18 degrés, température idéale. On va faire du body surf. Donc on va s'allonger dans l'eau.
Alors l'eau est bonne et il n'y a pas de courant.
Ok.
Et les vagues sont pas très puissantes.
Enfin, tout de même des vagues d'un mètre de haut. Il faut donc rappeler les consignes de sécurité. Qu'a-t-elle 13 ans sera notre élève.
Où est-ce qu'on met pas les doigts?
Dans le liche.
Dans la liche. Ouais, et au niveau de la poignée, quand il y a une vague, pour éviter de se tordre les doigts. Et quand on arrive au bord, on saute comment? Jambes, fléchis. La planche n'est pas un bouclier.
Première mission, je dois enduire nos 3 planches de wax, une pâte couleur blanche. Ça sert à quoi ça?
En fait, la wax, c'est de la paraffine, c'est un des seuls trucs qui est vraiment efficace pour pas glisser.
La session de surf peut donc commencer.
Ok, on se met debout rapidement, on regarde en loin devant. C'est pas mal.
Comment je tourne?
On a les jambes pliées, on regarde où on veut aller, et avec le bras, si je fais ça, devant, avant ou arrière.
C'est avec le bras du coup.
Ouais, et en fait, les talons bougent en fait. Hop, il faut regarder où on va aller.
Je sais donc désormais me mouvoir sur une planche de surf.
Et donc, vous êtes prêt pour gérer seul ce cours?
J'ai pris le cours en main. Alors, je n'avais qu'une seule élève, Katel, 13 ans, déjà expérimentée.
Allez, allez, on se lève.
Loïc me souffle tout de même les conseils techniques.
Il faut que le maximum de la planche touche l'eau. Et dès qu'on commence à perdre un peu de vitesse, on avance un peu le pied avant, ça nous fait baisser le centre de gravité. Et on accélère.
Le poids vers l'avant de la planche, voilà.
Le cours de 3 quarts d'heure se termine avec beaucoup de travail, notamment sur les virages.
Bah, c'était bien, elle a écouté les consignes, elle a commencé à prendre des vagues. En fait, frontside, vers face à la vague. Après, elle a fait backside, dos à la vague. Après, elle a commencé à faire des petits S.
Bah alors, ça s'est bien passé?
Ouais, c'était cool. C'était une bonne séance. Au début, les vagues, elles étaient petites. Puis après, elles ont grossi. Et du coup, bah, c'était cool.
Tu vas continuer ou pas?
Oui, bah oui.
Je suis peut-être un bon prof, mais ce que Katel ne sait pas, c'est qu'elle est bien meilleure que moi sur sa planche de surf.
La question maintenant, Valentin Boissé, avez-vous été convaincu par le métier ?
Oui, complètement convaincu, déjà parce qu'on passe sa journée au bord de l'eau. La sensation de glisse lorsqu'on y arrive est très satisfaisante. Il y a aussi l'esprit surf. Ici, tout le monde connaît mon collègue moniteur. Mais après trois quarts d'heure de cours, le corps souffre déjà. Loïc, lui, enchaîne cela 4 à 5 fois par jour avec des groupes de 8 élèves.
Au bout d'une heure dans l'eau, une heure et quart dans l'eau, quand il y a des conditions un peu physiques comme ça, on peut être très vite fatigué, oui.
Par exemple, là, vous allez faire combien de cours ?
4 cours par jour. Et c'est dur, mais on aime ça quand même. En fait, on aime transmettre et on aime partager notre amour de l'océan et nos connaissances sur l'océan aussi. Là, elle avait peur des méduses, je lui ai dit, regarde, la méduse, elle sait pas nager, elle suit le courant. On leur apprend plein de choses aux enfants, même aux adultes. Donc c'est ça qui est important, c'est, je pense, c'est le partage. Pas tout le monde, on fait ce qu'on aime, c'est plus facile.
C'est un métier physique, prof de surf ?
Oui. Physique et il y a quelques maladies spécifiques, l'exostose entre autres, les os de l'oreille qui poussent ou au niveau des yeux, vous voyez, les petites veines rouges qui poussent, dès que ça touche le pupille, il faut se faire opérer, ça c'est la réverbération. Le mal de dos, mais bon après, comme dans tous les métiers, hein, ouais. De défauts, et quand on aime, on compte pas.
Le brevet professionnel dure 9 mois, il faut savoir que c'est un métier qui recrute, car il y a actuellement une pénurie de moniteurs de surf. Loïc m'a donc assuré qu'une fois ma formation en poche, je trouverai du travail très rapidement.
Valentin Boissé, moniteur de surf à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à réécouter évidemment sur notre site rtl.fr ou notre appli RTL comme tous les autres épisodes de CRTL en immersion. Dans un instant, vous aurez la parole évidemment au 3210. Il sera beaucoup question de tous ces petits trucs que l'on peut mettre en place chacun d'entre nous pour lutter contre la sécheresse. À tout de suite.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.